Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Prendre soin de la santé des autres, c'est bien sûr appliquer des savoirs scientifiques éprouvés, être à l'écoute, accompagner. Mais bien soigner, c'est aussi s'adapter aux spécificités des patients, des personnes qui viennent avec une demande, celle d'aller mieux, comme avec leur parcours, leur singularité dans leur corps, dans leur tête, dans leur vécu. Cette recherche d'un mieux-être passe parfois par le traitement de notre enveloppe extérieure, de notre peau, une barrière de protection qui reflète nos émotions et parfois notre état physique et psychologique. Aujourd'hui dans Priorité Santé, à l'occasion de la publication d'un ouvrage particulièrement complet destiné aux soignants, nous allons vous parler de la dermatologie de la diversité. C'est le titre de ce manuel de diagnostic et de prise en charge illustré, rédigé par une trentaine de spécialistes, dermatologues, internistes, généticiens, anthropologues, épidémiologistes, infectiologues. Dermatologie de la diversité qui intègre la différence dans la pratique médicale pour s'affranchir d'un ethnocentrisme occidental qui caractérise encore souvent la science médicale. Pour parler simplement, pour plus d'efficacité et de pertinence, identifier les signes qui concernent les peaux fortement pigmentées, écarter les préjugés liés à ces phototypes foncés en tenant compte de la génétique, du lieu de vie, de l'accès aux soins, comme toujours, prendre en charge le patient et non sa maladie. Pigmentation, photoprotection, existe-t-il des affections spécifiques qui concernent les peaux noires ou métissées? Quels préjugés ou méconnaissances peuvent altérer le diagnostic? Deux invités avec nous. Ils ont tous deux dirigé ce manuel de dermatologie co-signé par une trentaine de spécialistes, un ouvrage illustré publié aux éditions Elsevier Masson. Professeur Antoine Mahé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de dermatologie au centre hospitalier des hôpitaux civils de Colmar, professeur conventionné de l'Université de Strasbourg, président du groupe thématique Peau Noire de la Société française de dermatologie. En ligne de Bamako, on retrouve le professeur Ousmane Faye. Bonjour professeur.
Bonjour Caroline.
Vous êtes directeur de l'hôpital de dermatologie de Bamako, professeur de dermatologie à la faculté de médecine et d'odonto-stomatologie du Mali. Et puis en fin d'émission, on va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, auteur du livre « Le sport, je me lance » aux éditions InPress.
Priorité santé sur RFI.
Dermatologie de la diversité. Alors, le titre de ce livre, il n'est pas forcément destiné au grand public, plutôt aux soignants. Mais pour commencer, simplement, l'exercice habituel de la définition. Peut-être d'abord vous, à Bamako, professeur Ousmane Faye. Cette dermatologie de la diversité, c'est quoi pour vous?
Alors, la dermatologie de la diversité, c'est en fait la prise en compte des particularités, des diversités à la fois culturelles, à la fois physique, à la fois physiologique de l'être humain dans la prise en charge d'une maladie de peau. Donc cela englobe pas seulement la maladie, mais il faut tenir compte, vous l'avez si bien dit, du vécu culturel, de l'environnement, et qu'il faut aussi prendre en compte pour pouvoir prendre en charge une affection.
Professeur Antoine Mahé, est-ce que d'après vous, ce livre, c'est d'abord un ouvrage pour combler un manque ?
Certain, il y a... C'est vrai que vous avez parlé d'ethnocentrisme de la science médicale, et c'est tout à fait vrai. Par exemple, les traités de dermatologie qui sont publiés en Europe ou jusqu'à récemment aux États-Unis font figurer relativement peu de photographies qui sont de dermatoses sur des peaux fortement pigmentées. Et donc ça, évidemment, ça peut être un manque pour les étudiants dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud, qui souvent n'ont à disposition que des traités européens ou nord-américains.
Et on comprend bien là que ce n'est pas forcément une différence de diagnostic, loin de là, mais plutôt reconnaître l'expression, les signes des troubles des affections, professeur Antoine Mahé, parce que c'est vrai qu'en dermatologie, l'examen clinique, c'est absolument essentiel. Beaucoup de choses se jouent à l'œil.
Exactement. Et la particularité des peaux foncées, c'est souvent qu'il y a un excès de pigmentation ou au contraire un défaut de pigmentation qui vont modifier la symptomatologie des dermatoses et donc qui peuvent être source de difficultés diagnostiques si on n'est pas habitué ou si on n'en a pas vu des images dans des ouvrages, etc.
Alors, quand on parle de la peau, il y a une forme de palette, hein, les index mélaniques, 6 degrés de pigmentation. Vous pouvez nous expliquer de quoi il ressort, professeur Ousmane Faye?
En fait, lorsqu'on regarde la pigmentation cutanée en tenant compte de la géographie, on se rend compte qu'il y a une diversité de pigmentation disons, allusion, on veut dire, à l'appartenance, on va dire, ethnique ou même raciale qui est un peu plus désuet. Les individus se distinguent par leur pigmentation en fonction de la réponse au soleil. Par exemple, les Caucasiens ont une peau beaucoup plus claire. Lorsqu'on vient vers le sud, en se déplaçant beaucoup vers les tropiques, on se rend compte que la pigmentation cutanée est de plus en plus foncée. Donc, c'est cette différence, cette palette qui nous ont permis, disons, à un dermatologue américain qui s'appelle Fitzpatrick, qui a essayé d'identifier ces différentes palettes et en essayant d'attribuer à chaque, on va dire, population une carnation qu'on appelle les phototypes de Fitzpatrick qui vont en fait, de 1 jusqu'à 6.
Jusqu'à 6. Alors, il n'y a pas que la clinique, il y a aussi le contexte, on l'a compris, compréhension du patient, de sa culture, de son interprétation de la maladie. Là, les auditeurs savent bien de quoi il s'agit, cette dermatologie de la diversité. Et c'est bien pour ça que dans cet ouvrage, professeur Mahé, eh bien, vous avez fait appel à l'expertise d'anthropologue.
Alors oui, parce que il faut comprendre de quoi on parle. Et la perception intime des dermatoses, comme en fait de toute maladie, mais là, moi, je parle en tant que dermatologue, elle varie beaucoup selon la culture, selon le mode d'expression qu'on peut avoir. Et donc, il est important d'avoir un aperçu de cet ordre pour resituer finalement la dermatose ou la maladie en général dans le contexte général qui entoure le patient. C'est pas seulement une affaire de couleur de peau, de présentation pigmentée des dermatoses, c'est également une question de ressenti et de demande. Et à ce niveau, la demande thérapeutique des patients qui consultent pour une dermatose quand ils ont de phototype foncé, elle est sensiblement différente dans certains cas de celle des patients de phototype clair. Par exemple, l'acné se présente souvent sur peau foncée avec des taches foncées. Et donc la demande thérapeutique qui, on va dire en Occident, serait une acné, c'est essentiellement des points blancs, des pustules, ça va être ça, ou des rougeurs, ça va être ça la demande. Et bien chez un patient de phototype foncé, ça va être plutôt la pigmentation. Et donc il faut en tenir compte lors du traitement, en adoptant certaines spécificités de traitement.
Alors, il y a bien sûr les différences de symptômes, les différences de diagnostic, des risques particuliers. Tout de suite, une illustration. Bien sûr, je vous demanderai à tous les deux professeurs de réagir après ce témoignage. Ce témoignage, c'est celui de Florentine. Elle est auxiliaire de puériculture et depuis 20 ans déjà, elle est concernée par les kéloïdes, excroissance, cicatrices hypertrophiées. Ses problèmes de peau l'ont conduite à quitter le Bénin pour la France. Elle a raconté son parcours de femme, indissociable de son parcours de soins à Divine Bertou.
J'avais 19 ans. Je l'ai depuis à peu près 2002 que ça a commencé. C'était un accident, donc ça m'a généré des blessures sur le corps qui ont été traitées comme toutes les blessures d'ailleurs. Moi, je me rendais compte que les fils s'englobaient dans la plaie et ça faisait des boulets qui faisaient progressivement des infections et ça pouvait couler.
Est-ce que vous pouvez nous dire où sont localisées ces excroissances?
Ils sont localisés au cou, entre le menton et la poitrine, l'épaule, le dos et en bas-ventre, le pubis. Ma mère est burkinabé, mon père est béninois. Donc, de la Côte d'Ivoire, nous sommes venus au Bénin. Et au Bénin, on a traité.
Vous êtes passé par la médecine conventionnelle ou plutôt par les tradis praticiens De quelle manière vous avez été traité au Bénin?
Avant d'aller au bloc opératoire, on a essayé avec les traditionnels et mon père dépensait beaucoup d'argent. chacun venait se présenter où il faisait le rang devant la maison de mon père pour dire « Oui, je peux guérir ça, c'est moi, je peux. » Et chaque fois, on était déçus. Donc, j'ai été opérée environ 3 fois au Bénin et j'ai été évacuée parce que j'ai commencé à souffrir de septicémie. Donc, les plaies ne cicatrisaient plus. Ça faisait beaucoup de pus, mais sur la durée des années. Et suite à cela, j'ai été évacuée. Pour moi, c'était l'Eldorado. C'était, je venais me faire soigner et revenir toute changée. J'étais sûre que la France avait un nouveau traitement pour moi. Je vous assure que c'était même un espoir pour toute la famille. Et le jour où les médecins français me disent « Ah non, on n'a pas de traitement pour vous. » On était 2, je me rappelle. Pour moi, je me suis effondrée. J'étais désespérée. Je me dis « Mais comment je fais ?» Parce que j'avais tellement confiance en eux. Je m'accroche. Je me dis « Mais ma vie sera quoi ?» Depuis ce temps, j'ai déprimé.
Qu'est-ce que l'apparition des kéloïdes a provoqué chez vous?
Alors, les kéloïdes a tout changé. Ça a bouleversé ma vie, ça m'a volé mon adolescence. Déjà dans le quartier, pour te situer, au lieu de t'appeler par ton nom, on ne m'identifie pas ça. Agbi, la fille qui a des cicatrices au cou. À l'école, je me rappelais que j'avais envie d'avoir des copains comme tout le monde, mais ils me refusaient littéralement. Parce que j'ai des cicatrices sur le corps. Et ça, j'ai grandi avec ces différences-là. Mais quand j'ai compris que ce n'était pas le cas, j'ai commencé à m'aimer. J'ai commencé à me regarder. Mais oh, que tu es belle! Et je me faisais vraiment confiance. Et à partir de cet instant, tout a changé. Parce que je me disais, oui, moi, jamais je peux connaître l'amour. Moi, jamais. Pour moi, c'est foutu, c'est fini. On ne m'aime pas. Parce que je me sens sale, je me sens bizarre. Je me dis, mais peut-être que ceux-là qui ont voulu me mettre dans un couvent, ils ont raison.
Comment est-ce que, justement, vous avez abordé la question des kéloïdes avec votre partenaire?
Quand j'ai rencontré mon mari, il me dit « Toi, je t'aime, je vais te marier. » Et à un moment donné, je me disais « Mais il est culotté, ce monsieur. » En Côte d'Ivoire, il y a un thème où on dit « Il va taper poteau. » Et je lui disais ça, je lui dis « Toi, tu vas taper poteau, en fait. » Au fond, je n'avais pas confiance. Et au final, non. Un jour, j'ai été hospitalisée, toujours pour les kéloïdes. Ça s'est mal passé, j'avais très mal. Il est venu me voir à l'hôpital. Je lui ai dit, regarde pourquoi je suis à l'hôpital. Tu ne vois pas parce que les kéloïdes sont bien visibles. Il me dit, mais pour moi, c'est comme des tatouages, en fait. C'est rien. Et je tombe ma blouse, je lui montre. Et la réponse, il fait des bisous là-dessus. Jamais quelqu'un me l'a fait. Et je me dis, bon, on verra, peut-être qu'il va changer ta vie. On a été jusqu'au mariage. Et ça a été la plus belle histoire de ma vie.
Comment vous sentez-vous aujourd'hui?
Je me sens bien. Déjà, sachez qu'avec les kéloïdes, ça ne se fait pas en un moment. Ça ne se fait pas en un clic. Et il a fallu que je le dépasse moi-même avant d'accepter le regard des autres. Ce n'est pas moi qui a demandé cette pathologie. Je ne la veux pas. Et je me bats contre elle. Ce n'est pas ma maladie, c'est la maladie. Et je ferai tout pendant mon existence pour faire connaître cette pathologie-là. On est des êtres humains comme tout le monde, désirables, des femmes intelligentes ou des hommes aussi qui en souffrent et on est capable de faire de belles choses.
Quel témoignage hein, recueilli par Divine Berthoud. Professeur Ousmane Faye, votre réaction?
Alors, les kéloïdes, comme elle a si bien dit, c'est une réponse exagérée, une mauvaise cicatrisation qui se traduit par des excroissances cutanées. C'est une pathologie qui est assez fréquente et qui survient soit spontanément à la suite de traumatismes minimes, soit après une intervention chirurgicale, comme c'est le cas après certaines femmes après le césarien. Alors, cette pathologie, elle est souvent familiale. Il y a une transmission, on va dire, aux familiales des familles qui font beaucoup plus de kéloïdes. À la limite, à moindre cicatrice, moindre égratignure, ça donne des mauvaises cicatrices, une cicatrisation exagérée. C'est quelque chose qui est assez difficile, c'est assez difficile à prendre en charge parce que toutes les techniques de réparation qui sont proposées, c'est-à-dire l'exérèse et ensuite essayer encore de
de donner une bonne cicatrice revient à la même chose. Ce qui fait que l'on a recours à des traitements qui vont avoir parfois un effet suspensif ou même qui vont avoir un effet pas immédiat et avoir parfois même des conséquences, on va dire, sur la santé par les infiltrations, les éjections de certaines substances. C'est quelque chose qui est assez fréquent sur peau noire, d'où la nécessité de la prévention, la prise en compte de cette dimension, cette propension à la peau noire de faire des kéloïdes.
Alors, professeur Antoine Maillot, on entend toute la difficulté. Puis dans ce témoignage, on perçoit aussi l'importance non seulement de l'offre de soins, parce qu'il a fallu partir du pays pour se faire soigner, mais aussi le regard des autres. Parce qu'il y a une renaissance quand il y a quelqu'un qui dit finalement à cette femme, à Florentine, tu es belle et je t'aime.
Alors oui, alors là, c'était vraiment une observation très touchante. Je vous remercie de nous l'avoir communiquée. C'est toute la problématique, en fait, des maladies pour lesquelles on a peu ou pas de traitement. Et il y a un moment, et la démarche de cette dame est tout à fait positive dans la mesure où, au bout d'un moment, il y a le déni, il y a l'espoir un petit peu imaginaire pour une dermatose qui est très difficile à traiter, et donc finalement l'acceptation et la négociation. Et donc les maladies de peau, alors évidemment, cette maladie, ce n'est pas une maladie qui, on va dire, qui tue, mais l'image qu'elle donne aux autres, surtout aujourd'hui où l'image est si importante, évidemment, peut être très très mal vécue. Alors d'ailleurs, un petit mot quand même sur les kéloïdes. Pourquoi est-ce qu'on a si peu de traitements pour les kéloïdes? Bon, en médecine, on ne traite pas tout. C'est clair qu'il y a des affections dermatologiques ou pas qu'on n'arrive pas à bien traiter, mais on peut se demander quand même aussi si la recherche n'aurait été pas plus active de par le monde si ce n'avait pas été la population d'origine africaine qui était la plus exposée.
Ça veut dire qu'on pourrait quasiment ranger certaines dermatoses au rang des maladies tropicales négligées.
C'est négligé, c'est vraiment une maladie un petit peu orpheline. Et alors, ça touche toutes les ethnies, ça existe sur peau blanche, mais c'est beaucoup plus rare. Et les formes vraiment très importantes, comme décrivait la patiente de tout à l'heure, c'est quand même le plus souvent sur peau noire.
Sur peau noire. Alors, on va prendre tout de suite une première question en direct.
RFI à Niamey, 96.2 FM.
On retrouve Marie. Marie, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes en ligne du Niger, vous avez 29 ans. Depuis plusieurs mois, vous avez constaté des changements au niveau de votre peau. Quels changements?
Elle a commencé à plus s'éclaircir, alors que je n'utilise pas de produits d'éclaircissement.
Une dépigmentation autour de vous? Certaines personnes ont cru justement que vous mettiez des lotions pour avoir la peau plus claire?
Oui.
Est-ce que vous avez changé d'habitude en termes de cosmétiques et est-ce que vous avez changé de crème, par exemple?
Bon, en ce moment précis, j'ai même arrêté les crèmes. J'ai presque arrêté tout.
Oui.
Et là, je constate que ma peau en tourne un peu noircie, surtout au niveau du visage, puisque j'avais eu des antécédents d'acné. Et du coup, je redoute que ça ne soit ça.
Ça s'éclaircit par tâche, ça s'éclaircit parce que c'est sec, ça s'éclaircit comment?
Ça s'éclaircit, c'est pas la même couleur que c'est que je connais, comme la plus naturellement.
Et après, ça revient foncé, ça va clair, ça revient foncé?
Oui, quand j'arrête les produits, quand j'arrête tout, en fait, je mets une pause.
Les produits, c'est quoi? Excusez-moi, Marie, vous dites que j'utilise pas de produits éclaircissants. C'est quoi comme crème que vous avez mis sur votre peau et que vous avez arrêté?
Du beurre de karité.
Ah, tout simplement.
Associé à du miel.
Associé à du miel. Donc, des produits que vous fabriquez vous-même?
Oui.
Que vous fabriquez vous-même. Maison. Vous avez consulté un dermato ou pas?
Non, je n'ai pas consulté un dermato.
Pourquoi, Marie?
C'est un peu cher, c'est pas la peau de tout le monde.
D'accord.
Je l'ai fait au moment où j'avais l'acné et parce que là, c'était un peu plus urgent que ça.
Mais là, ça coûte trop cher pour le porte-monnaie. En ce moment, c'est pas possible, c'est ça?
Oui.
Alors, on a deux spécialistes de la peau qui vous écoutent. Marie, est-ce que vous pouvez poser votre question? Allez-y.
Je voudrais savoir si le fait d'avoir utilisé les crèmes, que ça blanchit, si c'est normal que ça blanchit ou pas. Parce que j'ai vu que même avec les crèmes cosmétiques et autres, j'ai remarqué la même chose. Et maintenant, je me suis fait des crèmes fait maison, c'est presque pratiquement la même chose.
On est bien d'accord, Marie. Vous en avez jamais utilisé de crème éclaircissante?
Non.
C'est un petit non ou c'est un vrai non?
Un vrai non.
Un vrai non, d'accord. Mmh. Alors, bien sûr, professeur Antoine Maé, ce n'est pas possible de poser un diagnostic sans examen clinique. On a dit tout à l'heure, hein, beaucoup de choses se font à l'œil. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à partir du témoignage de Marie qui s'inquiète de cette dépigmentation?
C'est ça. Bon, déjà, ça montre ce que j'avais dit, c'est que la demande, souvent en dermatologie sur peau noire, elle a trait justement à des problèmes de pigmentation. Mmh. Alors maintenant, pour analyser ce cas, c'est assez difficile. Mmh. Surtout qu'il semble que ce soit un petit peu toutes les crèmes qui provoqueraient ça. Donc, je me demande s'il n'y a pas un souci au moment de l'application des crèmes ou peut-être de la toilette, parce qu'il y a certains ustensiles, comme le filet, vous voyez, qui sont utilisés pour la toilette, qui sont très bons, qui sont certainement très satisfaisants dans la majorité des cas. Mais sur certains types de peau, le fait de frotter intensément, ça peut donner l'impression que la peau va mieux, et le fait est que ça élimine certaines cellules mortes, mais à la longue, ça peut avoir un effet négatif chez certaines personnes, celles qui ont la peau sensible. Donc, je me demande si c'est pas ça en l'occurrence.
Mais... Marie, est-ce que vous utilisez les filets pour un petit peu comme des gants de toilette pour frotter?
Oui.
Oui. Alors, vous voyez, voilà. L'enquête d'Antoine Maé semble bonne. C'est vrai que quand on se promène sur les marchés, on voit comme ça, devant les échoppes, ces grands filets qui servent, en fait, un petit peu pour faire des gommages au quotidien. Ouais. Mais quand on a la peau un petit peu sensible, ça frotte trop, tout simplement. Quoi.
Voilà. Ouais.
Bah, c'est une première piste, déjà, arrêter avec le filet. Peut-être que ça ne correspond pas forcément à votre nature de peau. Ouais. Puis vous voyez si ça permet un changement, de freiner un petit peu cette dépigmentation. Un grand merci. Merci Marie pour votre appel. On a un message Facebook du Burkina Faso. Alors là, on est vraiment en plein dans votre thématique de la dermatologie, de la diversité. C'est Rachif qui explique. En 2002, il a été atteint d'une maladie surnommée Waga 2000. Alors pour ceux qui sont trop jeunes, Waga 2000, c'est le nom de l'extension de la capitale à Ouaga, qui avait été bâtie à l'occasion du sommet France-Afrique de 1996. Pour rien vous cacher, j'avais été envoyée sur place par RFI pour couvrir l'événement en 96. Cette maladie, en fait, c'est une leishmaniose cutanée avec, pour Rachif, des lésions sur les mains, sur les pieds. Il a traité ça avec des plantes. Il a toujours des cicatrices. Professeur Ousmane Faye, la leishmaniose cutanée, c'est quoi?
La leishmaniose cutanée est une maladie parasitaire due à un parasite qui... sévit essentiellement chez le rongeur en Afrique. L'homme entre accidentellement dans le cycle biologique de cette affection, soit en déplaçant son milieu naturel ou en entrant dans le milieu de vie de ces rongeurs-là. Mmh. Donc finalement, ça devient une anthropozoonose, c'est-à-dire une maladie qui sévit à la fois chez l'homme et chez l'animal. Mm. Une fois qu'on est piqué par des insectes, c'est des petits insectes qui vont à la fois piquer ces rongeurs-là et piquer l'être humain. Mm. Et c'est essentiellement les parties découvertes, c'est-à-dire les mains, les pieds, le visage qui sont touchés.
Ouais, ouais. Mm.
Et cela se traduit par d'abord un petit bouton qui par la suite va devenir une plaie. Et qui va grandir et parfois soit rester pendant longtemps, mais en général, la maladie construit debout de 2 mois. Et la maladie, même si on ne fait rien du tout, peut guérir spontanément.
Du et fait pour les cicatrices, professeur?
Alors, les cicatrices sont assez particulières parce que c'est ce qui nous permet d'ailleurs, lors des enquêtes épidémiologiques, de voir qui ont déjà fait la maladie et qui ne le font pas. Et typiquement, dans la ville de Ouagadougou, lors de l'extension de la ville de Ouagadougou, avec le déplacement de la ville et l'homme qui va entrer dans le milieu naturel de ces rongeurs-là, il y a eu une explosion, une épidémie de cette affection à Ouagadougou, du point que les gens l'ont appelé finalement Ouagadougou. C'est une maladie qui est banale, mais parce que la forme qui sévit chez nous, elle est essentiellement cutanée, elle est localisée uniquement à la peau. Dans d'autres pays, cette affection peut toucher tous les organes, avec même des formes un peu mortelles dans l'Afrique.
Oui, c'est vrai que la leishmaniose, c'est une maladie tropicale négligée. Là, on perçoit vraiment complètement, absolument, avec cette considération en termes d'urbanisme, toute l'importance de l'anthropologie de la santé. On comprend les événements, les habitudes pour expliquer la flambée épidémique. On va poursuivre notre échange. Je m'adresse à vous, messieurs les professeurs. Ce sera juste après ce titre de Coache à Alou. Priorité santé sur RFI, signe clinique et diagnostic des maladies de peau, dermatologie de la diversité. C'est le titre de l'ouvrage du manuel médical co-dirigé par nos deux invités du jour, professeur Ousmane Faye, directeur de l'hôpital de dermatologie de Bamako au Mali, professeur Antoine Mahé, chef de service de dermatologie au centre hospitalier des hôpitaux civils de Colmar dans l'est de la France. On a un message Facebook du Gabon signé Hermine. Elle explique que son compagnon a une peau atopique et elle se demande si la piqûre des moustiques peut déclencher des poussées d'eczéma. Professeur Antoine Mahé, est-ce que vous avez un avis sur cette question ?
Alors la peau atopique, c'est une peau qui est, anormalement sensible aux conditions extérieures, un petit peu poreuse en quelque sorte. Et cette porosité fait qu'elle est sensible, notamment aux piqûres d'insectes. Et une expression, ça peut être justement des démangeaisons qui paraissent excessives aux endroits de ces piqûres d'insectes. Des fois, d'ailleurs, c'est des micro-insectes, c'est presque plutôt des acariens. Mais en tout cas, oui, il y a une sorte d'hypersensibilité. Vous savez, la dermatite atopique, c'est associé, par exemple, à l'asthme assez souvent. Et l'asthme, c'est justement une hypersensibilité à certains pollens ou à certains animaux, vous voyez. Donc, c'est un petit peu la même chose, mais au niveau de la peau.
Alors, à présent, on prend la direction de Brazzaville, du Congo, où on retrouve en ligne Teddy. Teddy, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, Teddy, vous avez 44 ans. Vous avez des problèmes de peau depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Bien, merci. Oui, c'est vrai, depuis quelques années, j'ai des problèmes de peau que je n'arrive même pas moi-même à comprendre. Tantôt on me dit que c'est de la dâtre, tantôt on me dit que c'est une allergie, parce que j'ai essayé de consulter aussi des dermatologues, j'ai essayé de passer aussi par des traitements naturels. Il y a un moment où quand j'applique des produits, ça part, hein, ça part en tout cas, ça part, mais...
Des produits, vous dites là les produits du tradi ou les produits du dermato?
Oui, du produit de dermato.
C'est quoi, ce sont des corticoïdes? C'est quoi que vous appliquez sur la peau?
Non, ce sont des crèmes.
Hein, émollientes, des crèmes plutôt grasses qui vont nourrir la peau?
Oui, par exemple, il y a ça. Et puis il y a aussi des comprimés, hein, des comprimés que je prenais de temps en temps. Oui.
Donc, oui. Et en termes de médecine naturelle, qu'est-ce que vous avez mis sur votre peau?
Naturel, il y avait j'ai oublié le nom, c'est la famille de Cassia, il y a des feuilles qu'on m'avait montrées, qu'il fallait écraser. Mm. Et avec ce jus qui ressort, qu'on pouvait frotter sur la peau, c'est vrai que c'était efficace quand même.
Ça fait disparaître les taches.
Oui, ça fait disparaître les taches.
Est-ce qu'il y a d'autres Excusez-moi, Teddy, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre famille qui sont aussi concernées par ce même problème ou pas?
Oui, j'ai deux filles qui aussi ont des problèmes de peau. Il y a une qui a 13 ans maintenant et une autre qui a 3 ans.
Hein? Et du côté du diagnostic, pour elles, c'est quoi?
Bon, on n'a jamais vraiment vous dire effectivement c'est de quelle maladie précisément dont on souffre. C'est un peu difficile. On ne nous a jamais dit parce qu'on n'a jamais fait peut-être un traitement, des examens plutôt, des examens, il faut dire comme tel.
Mais est-ce que vous êtes allé montrer vos filles, comme on dit, à un pédiatre ou à un dermatologue?
Oui, chez un pédiatre. Pour ma petite, la petite de 3 ans, chez un pédiatre. Bon, on m'avait dit que c'était de l'allergie, elle était allergique un peu à la chaleur. Mmh. Et le pédiatre nous avait prescrit du Dexeril, du Dexeril qu'on mettait. Mmh. Effectivement, quand elle transpirait beaucoup, il y avait comme des bourbouilles qui apparaissaient. Mmh. Et après, quand on appliquait du Dexeril, au fur et à mesure, ça partait.
Mmh. Donc,
mais seulement ça continue.
Bon, donc pour l'instant, il n'y a toujours pas de solution en fait, pour ces problèmes de peau dans la famille. C'est ça qui vous inquiète?
Oui, c'est ça qui m'inquiète.
Professeur Ousmane Faye, on voit qu'il y a peut-être un terrain dans la famille de Teddy. Évidemment, encore une fois, pas de diagnostic à distance, pas de traitement à distance, ça c'est tout à fait impossible. Mais qu'est-ce que ça vous évoque, la description de ce cas?
Alors, possiblement, je pense que je note plusieurs choses, parce que ce qui nous dit les dartres, est-ce que c'est le diagnostic qui a été posé par un dermatologue ou c'est simplement un terme usité comme ça dans son environnement? Pour le dermatologue, le terme de darte est tout à fait clair. Hein. C'est en fait des sujets qui ont la peau sèche par excellence et qui vont faire des petites allergies en minima. Et il faut juste hydrater la peau et ça passe. Mais c'est des gens qui ont cette condition-là. Il va falloir sans doute utiliser de façon régulière. Et s'il se trouve que c'est son cas, les dartres, les eczématites, comme on dit dans notre jargon, c'est assez fréquent chez les sujets qui sont atopiques, c'est-à-dire qui ont la propension à faire des allergies comme l'asthme, comme la nitite allergique, et bien entendu, ils peuvent le transmettre à sa descendance. Par contre, ce qu'il évoque chez l'enfant, le bouton de chaleur, c'est quasi fréquent. Pendant la période de chaleur, ça n'a rien à voir avec une allergie. C'est tout à fait simplement la sueur qui bloque dans les petits canaux. Du fait un peu que la sueur n'arrive pas à sortir, c'est bloqué à l'intérieur des canaux de répare et ça donne des petites éminences qu'on voit sur la peau et qui démangent en plus, surtout lorsque la personne a chaud. Et là, il a si bien dit, il faut juste mettre des crèmes pour hydrater, qui vont avoir un rôle, qui vont hydrater la couche cornée. Et cette couche cornée ne va pas bloquer les canaux de répare, donc vont laisser tranquillement couler la sueur, ce qui fait qu'ils ne vont plus l'avoir. C'est pourquoi nous conseillons, pour éviter ce genre de choses, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Et les sujets qui font ça, nous les demandons de continuer à mettre des crèmes sur la peau qui vont hydrater la couche cornée et éviter le blocage de la sueur dans les petits canaux.
Donc de la crème pour toute la famille, on l'a bien compris. On remercie Teddy pour son appel. Une dernière auditrice que l'on retrouve au Congo.
RFI à Pointe-Noire, 93.2 FM.
Et c'est vous, Émeraude, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous appelez au sujet de votre papa. Il a été diagnostiqué pour une maladie bien précise. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit?
Oui, il s'agit de la pemphigoïde bulleuse. Mm-hmm. Il a été diagnostiqué au Maroc. Après avoir fait plusieurs examens, il a passé quelques examens pour détecter si c'était pas un cancer par hasard. Mais finalement... on a dit que c'était une allergie, après allergie, et là, on avait conclu que c'était une pemphigoïde bulleuse.
Donc, vous avez eu ce diagnostic. Votre papa, il a quel âge?
Il en a 62.
Et la maladie, elle est apparue il y a combien de temps?
Il y a 4 ans.
Les médecins, ils lui ont conseillé quoi à votre père? Et puisque vous pouvez nous décrire aussi les symptômes, parce que c'est vrai que ce nom, pemphigoïde bulleuse, moi, je vous l'avoue, hein, j'en avais jamais entendu parler avant. C'est quoi les symptômes?
Les symptômes, en fait, sont des bulles qui apparaissent sur tout le corps et qui éclatent. Il y a un liquide qui sort et voilà.
Est-ce que c'est associé à des douleurs?
Des plaies, oui, effectivement, c'est associé à des douleurs. Au niveau des jambes, il a des pieds enflés et puis...
Il y a quoi aujourd'hui comme traitement, votre père?
Aujourd'hui, le tout dernier traitement qu'il a pris, c'était Emzumab. Omalizumab for injection 150 mg, effectivement.
Donc ça, c'est quoi? C'est une biothérapie, j'imagine. Je vais me tourner vers les médecins qui en connaissent beaucoup plus que moi sur ce rayon. Professeur Antoine Mahé, le traitement pour la pemphigoïde bulleuse, je l'ai déjà bien prononcé, c'est déjà quelque chose.
Alors, on dit plutôt pemphigoïde.
Bah oui.
Mais en fait, je trouve cette observation, je répondrai à la question du traitement, mais elle est intéressante parce que la pemphigoïde bulleuse, c'est la maladie typiquement occidentale. Hein. On en voit très couramment, ça touche les personnes âgées. Et donc ça doit quand même rappeler que la dermatologie et la médecine en général, quelles que soient les origines, la plupart des maladies sont exactement les mêmes. Bien sûr, c'est un petit peu le jeu dans un ouvrage comme on a écrit avec Ousmane Faye ou dans une mission comme celle-ci de mettre en exergue ce qui diffère. Mais la majorité de la pathologie, c'est exactement la même, si ce n'est peut-être quelques questions de présentation. Alors maintenant, c'est une maladie auto-immune. Le système immunitaire se retourne contre certains antigènes de la peau. Le traitement, je dois dire qu'en Europe et plus particulièrement en France, on a tendance à privilégier les corticoïdes locaux, mais à forte dose. Et donc, l'oxalizumab, comme elle a utilisé, c'est un traitement un petit peu de second ou de troisième recours, mais peut-être que les autres traitements à base de crème, à base de corticoïdes, ont été utilisés auparavant. Sinon, ça vaut le coup. Mais par contre, c'est des protocoles assez précis parce que même si c'est uniquement des corticoïdes locaux, ils peuvent avoir un retentissement systémique, hypertension.
Ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont administrés. Ça veut dire qu'ils sont administrés quand on est hospitalisé?
Alors, on peut le faire en hospitalisation parce que souvent, c'est les personnes très âgées, donc ça peut aider. Mais sinon, ça peut se faire en exergue. Par exemple, le Dermoval, qui est un traitement très connu, il faut appliquer 3 tubes par jour sur tout le corps.
Ah oui, voilà. c'est pas une petite noisette, c'est assez énorme.
C'est des doses un peu importantes. Ouais. Mais ça évite le recours à des traitements, déjà la cortisone orale. Dans le reste du monde, c'est pratiquement toujours traité par la cortisone orale, qui est quand même assez toxique.
Professeur Ousmane Faye, dans le cas précis du père d'Émeraude, il a quand même consulté au Maroc. On voit que l'accès aux soins, l'offre thérapeutique, elle compte beaucoup aussi dans le niveau de soulagement du patient.
C'est exact. C'est le cas partout en Afrique, notamment en Afrique occidentale, du fait que nous avons un plateau technique limité, quoique relatif à l'heure actuelle, parce que de plus en plus, nous avons les moyens à Bamako de faire le diagnostic des pemphigoïdes bulleuses et nos patients, la plupart du temps, comme l'a dit Antoine Mahé, sont traités avec des corticoïdes, parfois d'autres immunosuppresseurs qui marchent assez bien. C'est une pathologie relativement, on va dire, fréquente dans notre contexte, contrairement en Europe où nous les voyons beaucoup plus jeunes, disons, c'est relatif, parce que en Europe, c'est 80 ans ou parfois même au-delà, mais chez nous, nous les voyons vers l'âge de 55-60 ans, comme c'est le cas chez le père de cette jeune fille.
En tout cas, on remercie vraiment Émeraude pour son appel. On arrive à la conclusion de notre échange avec des illustrations très concrètes aussi qu'on a dans cet ouvrage, dans votre manuel. Et c'est vrai aussi, par exemple, en matière de dépistage des cancers de la peau. Là, c'est vraiment quelque chose qui doit alerter sur ces signes qui peuvent être assez différents en fonction de la carnation du patient. Professeur Antoine Mahé, sur des peaux plus foncées, les manifestations peuvent être et les localisations assez différentes.
Alors effectivement, donc on va prendre l'exemple du mélanome, qui est le cancer des grains de beauté. Sur peau claire en Europe, ça peut survenir en n'importe quel point du tégument, de la tête, sur les bras, sur le tronc, et c'est fréquent. Et on essaie de le diagnostiquer le plus précocement possible. Il y a toute une éducation de la santé qui est faite dans les médias, etc., par les dermatologues. Chez les patients de phototype foncé, le mélanome est beaucoup plus rare et il se focalise essentiellement au niveau de la plante des pieds. Et donc, il y a deux problèmes pour son diagnostic précoce. C'est d'une part une ignorance par la population qu'elle peut être exposée au risque de cancer et notamment de mélanome. Et deuxièmement, c'est le siège quand même un petit peu difficile d'examen. Il faudrait théoriquement essayer de se dépister un petit peu comme le dépistage du cancer du sein, on doit se palper trempée sous la douche, bon, il faudrait penser à se regarder de temps en temps la plante des pieds.
Il faut être souple.
Pour voir des... En même temps, il y a aussi des tâches physiologiques, naturelles, donc c'est un petit peu difficile. Mais au moins, ça me donne l'occasion quand même d'alerter un petit peu sur les auditeurs sur la possibilité de mélanome. Bon, on rappelle par exemple que Bob Marley, il est décédé d'un mélanome plantaire, justement.
Donc, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Si on observe chez quelqu'un de la famille une nouvelle tâche, bien sûr, qui ne va pas quand on lave ou quand on se gratte, et qui est vraiment bizarre, il y a de quoi alerter, aller montrer ça à un médecin.
Exactement.
Question de la dépigmentation, hein, on arrive vraiment à la fin, là. Les tâches, les décolorations, réactions cosmétiques, est-ce que c'est un motif de plainte fréquent dans le cadre de vos consultations à Bamako, professeur Ousmane Faye?
Oui, la dépigmentation à visée cosmétique est une pratique courante.
Hein, oui.
À Bamako, dans les années 92, une enquête de prévalence avait montré qu'une femme sur quatre se dépigmentait. À Dakar, c'est à peu près trois femmes sur quatre. Et à Lomé, c'est quasiment la moitié des femmes qui se dépigmentent. Alors, les femmes qui viennent beaucoup plus souvent en consultation viennent pour les complications, c'est-à-dire il peut s'agir des complications infectieuses, c'est-à-dire les infections, qu'elles soient bactériennes ou les mycoses. Mais de plus en plus, ce que nous voyons, c'est vraiment les altérations pigmentaires des femmes qui viennent avec des taches pigmentées au niveau du visage, au niveau du décolleté, les coups qui sont dus effectivement à l'effet combiné à la fois de l'usage de ces cosmétiques, notamment l'hydroquinone, contenu dans certains produits, mais également l'exposition solaire qui est prévalente dans notre contexte et qui, par la suite, vont donner ces taches pigmentaires disgracieuses pour lesquelles nous n'avons finalement pas beaucoup de recettes. Parce que le traitement qui marche le mieux, c'est vraiment le laser. On n'a pas de laser et c'est juste limité à des crèmes pour faire non seulement se protéger du soleil, mais également qui vont entraîner une petite exfoliation, un peeling, pour pouvoir en fait diminuer l'effet de la pigmentation. En plus, nous leur demandons d'arrêter cette dépigmentation.
Oui,
parce
c'est
que
toujours...
déjà, le fait d'arrêter va entraîner au moins la diminution, on va dire, de l'écart de teint entre la peau dépigmentée et cette peau foncée qui est l'effet contraire de la dépigmentation qu'on appelle l'ochronose exogène.
Et ce sera le mot de la fin. Grand merci à tous les deux d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé, cet ouvrage de référence Dermatologie de la diversité chez Elsevier Masson. Un grand merci. Et on va parler activité physique, sport et santé tout de suite dans Priorité Santé. Bien évidemment, c'est en votre compagnie, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport à Paris. Et une question que se pose l'une de nos auditrices, elle concerne l'allaitement maternel. Est-ce que le sport, c'est compatible avec le fait d'allaiter son bébé? Et pour commencer, docteur, bien comprendre les changements que peuvent provoquer l'allaitement maternel pour l'organisme féminin.
Et oui, absolument. Pendant l'allaitement, eh bien, il y a des hormones qui sont sécrétées. La prolactine, l'ocytocine, ça, ce sont deux hormones qui permettent à la maman eh bien, de s'adapter, notamment au rythme du bébé, d'avoir une sensation d'apaisement. Parce que l'allaitement, il faut savoir que ça fatigue le corps, hein, mais aussi, évidemment, la tête. Moralement, ce n'est pas toujours évident, évidemment, de suivre le rythme de bébé. Mais justement, ces hormones vont permettre une meilleure résistance naturelle à l'allaitement grâce à la sécrétion d'hormones. Alors, après l'accouchement, le sport, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'améliorer la posture. Hein, et ça peut avoir notamment aussi un impact positif sur la rééducation périnéale. Et une activité douce va être bien pour que la maman puisse se réapproprier son corps, se retonifier, notamment au niveau du dos, hein, parce qu'on sait que c'est une zone qui est particulièrement sollicitée lors de la grossesse. Rappelons quand même que pendant cette période, l'utérus pèse encore 1 kg et que le périnée est encore très fragile. Donc, c'est vraiment important d'être très précautionneux pendant cette période.
Alors, peut-être que nos auditrices se posent la question, le périnée, l'accouchement, peut-être juste quelques explications. Hein, vous connaissez bien le corps, les muscles, pour expliquer pourquoi ce périnée est mis à si dure épreuve au cours de la grossesse et bien sûr pendant l'accouchement.
Alors évidemment, pendant la grossesse, eh bien, il y a le poids du bébé qui va peser sur ce périnée, qui est ce tissu tendino-musculaire qui ferme le bassin en bas. Et puis évidemment, pendant l'accouchement, c'est là que le bébé va passer. Et donc, tout ça distend. Et naturellement, il a la nécessité de se distendre pour pouvoir laisser passer le bébé. Mais après, évidemment, il faut retendre tout ça. Et dans cette période-là de remise en tension du périnée, eh ben, c'est une période un petit peu délicate pendant laquelle il ne faut pas forcer dessus.
Et c'est très important pour le confort sexuel et le confort urinaire également.
Absolument, puisque un des risques, le risque majeur, c'est l'insuffisance périnéale, l'insuffisance urinaire, c'est-à-dire d'avoir des fuites urinaires qui sont très fréquentes. Et lorsque l'on n'a pas une bonne rééducation, eh bien, ces fuites vont être fréquentes, notamment lors de la pratique sportive.
Alors, on y revient au sport. Cette question directe, hein, quel sport pratiquer ? Et peut-être même certaines pratiques plutôt à éviter après l'accouchement.
Et oui, cette pratique sportive doit donc être adaptée pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Et surtout tant que la rééducation périnéale et la rééducation abdominale n'est pas achevée. Donc les sports à impact, il faudra faire attention. Par exemple, la course à pied, le tennis, il faut faire attention. Les sports où on a des flexions importantes parce qu'on va donner des hyperpressions abdominales, là aussi on fera attention. La Zumba par exemple, quand on va danser, on va fléchir, ou encore le yoga dynamique, on va faire des grandes flexions, il faudra faire attention. Et puis enfin, porter des charges lourdes lors de la musculation, c'est pas une bonne idée non plus. En revanche, dans les 3 mois qui suivent l'accouchement, faire du yoga postnatal, du pilates ou de la marche ou de la natation encore, donc des activités douces, tout ça, ce sera intéressant parce que ça aura un impact positif sur les groupes musculaires, le souffle et le moral de la maman.
On revient à notre sujet du départ, hein, bien l'allaitement. Est-ce que pratiquer un sport, Dr Sen, ça peut avoir un impact, on va dire, directement sur la qualité du lait maternel ?
Eh bien, il y a 2 études sérieuses qui montrent que non. Hein, on a pris 2 groupes de femmes pendant 8 semaines, 2 groupes de femmes allaitantes, évidemment. Une était témoin, l'autre pratiquait régulièrement de l'exercice. Aucune différence entre les 2 groupes, que ce soit dans la quantité, la composition du lait ou la croissance de l'enfant. Donc, vraiment, le fait d'avoir une activité physique n'altère pas le goût ni la teneur du lait. Donc, effectivement, ça n'a pas d'impact sur la qualité du lait. En revanche, il faut faire attention au manque d'hydratation et ou à la fatigue. Effectivement, quand on reprend le sport de manière trop intense, eh bien ça peut entraîner une diminution de la quantité de lait chez la maman. Donc, il faut trouver un bon équilibre et surtout pas en faire trop ni trop vite, encore une fois, et puis surtout bien s'hydrater.
Il y a aussi autre chose, quand le bébé est là, c'est l'organisation. Celles qui ont eu des enfants ou qui vont en avoir s'y préparent ou le savent déjà. On n'a pas forcément énormément de temps entre 2 tétés.
Et absolument, l'allaitement c'est chronophage et faire du sport simultanément demande une bonne organisation. Alors si on confie justement au bébé à son conjoint ou à un proche, l'idée c'est de partir immédiatement après la tétée. D'abord ça nous laisse davantage de temps évidemment et puis on est plus légère pour bouger évidemment. On n'oublie pas éventuellement de laisser un biberon de lait maternel au frigo, comme ça en cas de fringale le bébé, eh bien on sait qu'il aura sa tétée et que ce sera parfait. On part plus sereine et donc ça c'est toujours parfait puisque une maman sereine et qui fait du sport, c'est un bébé en pleine forme.
Et c'est vraiment ce qu'on recherche parmi nos auditrices, qu'elles soient toutes heureuses avec leur petit dans les bras. Merci beaucoup Dr Jean-Marc Sen. Et on peut, pour en savoir plus, hein, pour se lancer dans le sport, il y a toujours votre livre, Le sport, je me lance, aux éditions InPress. À très bientôt. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise l'émission. Ophélie Lassen, Louise Calédec, Didier Bleu, Laurence Snow. On se retrouve bien sûr demain. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.